Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment l'armée et la gendarmerie vont permettre de lever le voile sur une mort a priori naturelle. Un crime presque parfait qui va plonger toute une région dans la stupéfaction. Et un scénario machiavélique derrière lequel se cache une incroyable manipulation.
Alors nous sommes dans le paradoxe le plus absolu. Il faut tuer un homme parce qu'il faut sauver une femme.
Nous sommes à Sougy, village de 870 âmes, situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest d'Orléans. Ici, les journées s'écoulent en toute quiétude, bercées par les paysages reposants de la Beauce.
Il y a beaucoup d'agriculteurs, de maraîchers, de céréaliers. C'est la première région céréalière d'Europe. Hein.
La Beauce est un coin qui est plutôt destiné à l'exploitation agricole qu'au crime.
Seuls les grondements d'avions viennent ponctuer ce cadre idyllique. En effet, à quelques kilomètres de là, une base militaire complète le décor de cette campagne française.
La base aérienne d'Orléans-Brécy a pour vocation le transport aérien militaire depuis les années 40. Elle est perdue au milieu des champs de blé. Elle est entourée de petits villages fort sympathiques.
Ce matin du 4 mai 1998, le soleil est généreux et une douceur estivale s'est installée depuis quelques jours. Les 2000 hommes de la base s'affairent à leur tâche. C'est un jour comme les autres. Pourtant, à l'état-major, on est soucieux.
Le commandant de base est inquiet à cause d'une rumeur qui circulait au sein du personnel de la base aérienne, en particulier au sein de la communauté des mécaniciens.
Cela fait presque deux mois que l'un des chefs mécaniciens, le major Jean-Paul, est décédé. Et les circonstances de son décès laissent libre cours aux plus folles rumeurs.
On se dit, il est mort de fatigue, on dirait de burn-out maintenant.
On ne sait pas très bien de quoi il est mort. Il a eu une sorte de malaise.
Le commandant de la base ne comprend pas. Et pour cause. Jean-Paul était un grand gaillard d'1m90 avec une santé de fer. Ses nombreux certificats médicaux le prouvent.
Toutes les visites qu'il avait passées faisaient état du fait que ce garçon était en excellente santé. Donc ça paraissait complètement incroyable qu'il puisse y avoir une mort aussi subite.
Comment est-ce possible qu'un homme de 39 ans, 90 kilos, culturiste, sportif, puisse décéder d'une façon si brutale, si soudaine, sans qu'il y ait une explication qu'il soit donnée?
Rongé par les doutes, le commandant de la base décide alors de contacter la gendarmerie du Loiret. Il veut faire la lumière sur les causes de la mort de son major.
Les gendarmes vont prendre au sérieux la déposition du colonel, parce que c'est un militaire, on en parle aux gendarmes qui eux-mêmes sont militaires, et le procureur prend cette affaire très très au sérieux.
Alors, ces rumeurs sont-elles fondées? De quoi Jean-Paul, ce solide gaillard aux états de service impeccables, est-il mort? Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ils sont face à une affaire qui va s'avérer pleine de rebondissements. Deux mois après le décès du major, les gendarmes viennent donc d'ouvrir en toute discrétion une enquête préliminaire pour rechercher les causes de sa mort. Problème, dans cette affaire, il n'y a pas d'indice. Et surtout, pas de scène de crime. Alors, c'est sur la vie de Jean-Paul qu'ils vont se pencher.
Professionnellement, Jean-Paul, il a vraiment toutes les qualités. Très compétent, très rigoureux, très pédagogue, travailleur.
Décrit comme chaleureux par son entourage professionnel, on ne lui connaît aucun ennemi sur son lieu de travail. Les enquêteurs vont donc s'intéresser au jour précédant son décès.
Il vient de rentrer de mission en Afrique, il est très fatigué, il s'en ouvre à ses collègues en disant, voilà, moi, je suis fatigué, mais alors on met ça tout de suite sur le côté du décalage horaire, la fatigue, tout ça.
Ayant peur d'être arrêté de vol par la médecine militaire, il choisit de partir en permission. En se disant, je vais me faire soigner par mon médecin et les choses vont s'arranger.
Seulement, les semaines passent et Jean-Paul ne revient pas sur la base. Inquiet, Étienne, un ami et collègue du major, décide de lui rendre visite à son domicile.
Au début du mois de mars, on est le 8 mars de mémoire, c'est un dimanche, je veux me rendre compte sur place, qu'est-ce qui arrive à mon ami. Et je débarque à Sougy et je constate que les volets sont tirés.
Il est 16 heures, le soleil brille, mais la maison semble endormie. Étienne est accueilli par l'épouse de Jean-Paul, que nous appellerons Monique. Cette dernière lui annonce que son mari est alité.
Et là, Jean-Paul sort au bout d'une trentaine de minutes de sa chambre. Et je vois ce grand gaillard qui approche vers moi. Il marche comme un petit vieux. Dans son peignoir, tout courbé, il porte des lunettes noires. J'ai dit, enlève tes lunettes là. Pourquoi t'as besoin de lunettes noires? Et il a enlevé ses lunettes et là, j'ai constaté qu'il avait plus de blanc d'œil. Il avait les yeux complètement explosés.
Inquiet, Étienne demande à Jean-Paul ce qui lui arrive.
Il dit, j'ai dû faire trop de sport, c'est ce que me dit mon médecin. Et donc certainement, j'ai dû attraper quelque chose. En tout cas, je fais de l'attention et le médecin me soigne pour ça. Il vient 2 à 3 fois par jour. Je ne suis pas inquiet. Dès que je descends en toute 15 de tension, je pourrai sortir. Le médecin me l'a assuré.
Étienne repart tranquillisé. Pourtant, 3 jours après cette visite, il est convoqué dans le bureau de son responsable. Ce rendez-vous, il ne l'oubliera jamais.
Et là, le lieutenant-colonel, mon chef, m'apprend que Jean-Paul est mort.
Étienne s'effondre, tout comme Monique, l'épouse du major depuis presque 20 ans. Tous se souviennent d'une femme anéantie par le chagrin.
Elle est effondrée par le fait que son mari soit parti aussi jeune et aussi subitement.
Son mari est inhumé dans le Cher. Elle fait des kilomètres pour aller le voir. Elle fait en gros une centaine de kilomètres. Elle y va pratiquement tous les jours. Elle y pose des fleurs.
2 mois passent. Monique, toujours en deuil, ne se doute pas que la mort de son mari fait l'objet d'une enquête. Trop de sport, un problème de tension, les circonstances du décès restent troubles. Et les gendarmes s'interrogent. Et si finalement cette mort n'était pas due à une erreur du docteur?
Ce médecin, dans la région de la Beauce, c'est un vrai notable. Mais il n'est pas notable au seul motif qu'il est médecin. Il est notable parce que c'est quelqu'un qui est respecté.
C'est un homme qui est au service des autres. C'est un médecin de campagne. On sait qu'un médecin de campagne est à tout moment à la disposition de ses patients. C'est un appui, c'est l'homme sur lequel on compte. Et il se dépense d'une manière permanente en faveur de ses patients auxquels il répond.
Les gendarmes referment donc la thèse d'une erreur de diagnostic. Les premières vérifications faites, l'enquête est au point mort.
On n'a rien. On a une femme qui était pleurée, on a un couple qui est uni dans les éléments qu'on peut réunir de première journée, et puis on a un médecin dont la réputation est parfaitement établie.
Alors, les gendarmes font-ils fausse route? La mort de Jean-Paul cache-t-elle vraiment un terrible secret? Ou est-il simplement décédé de mort naturelle? Alors que l'enquête piétine, les gendarmes de la brigade de recherche d'Orléans décident de s'intéresser à la deuxième personne présente au chevet de Jean-Paul, son épouse.
C'est une femme sympathique, une femme normale, quoi, sans trop d'histoire.
Toujours une belle coiffure, toujours de beaux tailleurs, de belles tenues. C'est une femme qui avait de l'allure.
Monique rencontre Jean-Paul 20 ans plus tôt. Entre eux, c'est le coup de foudre. De cet amour naît une petite fille. C'est une famille décrite comme unie, heureuse et sans histoire.
Vu de l'extérieur, sur les éléments d'enquête, ça paraît un couple uni, un couple heureux.
Lui est souvent absent. Ses missions justifient ses absences. Rien jusqu'à présent n'a appelé l'attention.
Et alors que les gendarmes pensent avoir affaire à une famille idyllique, l'attitude de Monique va les interpeller.
Cette veuve, elle va avoir un comportement qui, là par contre, va interroger et qui n'est plus en rapport avec le fait d'être effondrée.
Elle s'achète une belle voiture, elle fait quelques petits travaux, enfin... En un mot, il y a quelques éléments qui, pris séparément, n'auraient peut-être pas de signification, mais qui viennent conforter cet esprit de soupçon.
Les enquêteurs s'interrogent. Monique ne travaille pas et touche une petite rente suite au décès de son mari. Alors, d'où provient l'argent de ses dépenses ?
Cette mort subite bizarre, ce comportement assez curieux de cette veuve, ça laisse un peu imaginer, lorsqu'on est enquêteur, la possibilité qu'on ait tué pour de l'argent et qu'il y ait d'ailleurs un testament ou des dispositions qui l'amènent éventuellement à avoir un mobile.
Des soupçons qui vont s'avérer justifiés. Monique vient de toucher deux assurances d'essai d'un montant de 150 000 euros. Pour les enquêteurs, la thèse du crime crapuleux se dessine. Mais c'est l'étude de la téléphonie de la jeune veuve qui fait définitivement rebondir l'affaire.
On a des relevés de factures téléphoniques qui sont investiguées par les enquêteurs et qui permettent de constater des relations extrêmement rapprochées de la veuve du major et de ce médecin, et notamment la veille du décès.
Alors, la veuve et le bon médecin de famille seraient-ils impliqués dans la mort du major ? C'est en tout cas ce que vont essayer de déterminer au plus vite les enquêteurs.
Le point essentiel, c'est la mort d'un homme jeune qui apparaît comme une anomalie, le comportement d'une veuve sur lequel on s'interroge et l'assistance permanente d'un médecin dont on se demande ce qu'elle cache.
3 mois après la mort du major, une information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte. Le juge d'instruction en charge du dossier prend une décision qui va alors tout changer.
On va décider de procéder à l'exhumation du corps pour faire des analyses et savoir si une autopsie, des analyses toxicologiques sont susceptibles de démontrer que les soupçons sont fondés ou au contraire de montrer que tout cela ne repose sur rien.
Alors, que va révéler cette autopsie ? Monique, la veuve, a-t-elle vraiment un lien avec la mort de son mari ? Et surtout, quel est le rôle de ce médecin ? Le 2 juin 1998, à 9h du matin, soit 3 mois après le décès du major, les gendarmes se rendent au cimetière de Châteauneuf-sur-Cher pour procéder à l'exhumation du corps. Mais une rencontre inattendue va les prendre au dépourvu.
C'est hitchcockien, quoi. C'est un cimetière avec ses brumes du matin, les services enquêteurs qui viennent pour inhumer un corps. On est évidemment dans un temps d'enquête, hein, donc on ne prévient pas qu'on va se présenter sur le cimetière. Et puis là, coup de théâtre, au moment d'arriver devant la tombe, on a la veuve éplorée qui est prostrée devant la tombe.
Embarrassés, les gendarmes sont dans l'obligation d'avertir Monique de la raison de leur présence. La jeune veuve comprend alors que la mort de son mari fait l'objet d'une enquête.
Tout se précipite parce qu'elle est là et elle peut faire capoter l'enquête. Les gendarmes redoutent aussi qu'elle puisse mettre fin à ses jours, voilà, ou partir à l'étranger ou quoi que ce soit. Donc on l'a sous la main, on en profite.
Le corps du major est transporté à l'Institut médico-légal pour être autopsié. Et face à l'urgence de la situation, le juge d'instruction en charge du dossier décide de placer Monique en garde à vue.
La veuve prétend que le matin de sa mort, le major était apparemment en bonne forme.
Elle affirme que son mari, ce matin-là, allait bien, qu'il ait pris un petit déjeuner copieux.
Et que quelques temps après, quand elle revient à la maison, il est mort.
Quant à sa relation avec le médecin, Monique explique qu'il est un ami proche, un homme en qui elle a une confiance absolue et qui, selon elle, a tout fait pour soigner son époux.
À partir du moment où on a une épouse qui ne livre rien, il est relativement logique d'accélérer le processus. Et donc le magistrat instructeur va effectivement décider de, placer en garde à vue le médecin.
En audition, le médecin explique que Monique l'a appelé vers 14h. En arrivant, il n'a rien pu faire d'autre que constater le décès. Jean-Paul serait mort d'asphyxie suite à un malaise lié à un excès de tension.
Et on a une seule information finalement. J'ai constaté le décès et il a mangé copieusement le matin.
Et alors que la garde à vue des suspects est sur le point d'être levée, les premiers résultats d'autopsie tombent.
Le médecin légiste va être très clair. Il n'y a pas de petit déjeuner copieux. C'est complètement impossible. L'intéressé est dans le coma depuis plusieurs heures, ce qui est incompatible avec la prise d'un petit déjeuner copieux. On scelle le premier mensonge de l'épouse du major.
Au vu des constatations, dans les heures précédant son décès, Jean-Paul était déjà dans un état comateux. Jamais donc, il n'a pu prendre de petit déjeuner copieux. La version de Monique ne tient pas. Elle ment.
Et c'est cette conjonction de « on a les résultats de l'autopsie, ça ne concorde pas avec ce que dit l'épouse du major » qui va amener à 22h ce médecin à passer à des aveux.
Et il dit aux gendarmes « je vais tout dire, mais depuis le début ».
Alors, que va leur apprendre le docteur ? A-t-il voulu cacher un mauvais diagnostic ? Ou pire encore, a-t-il aidé le major à mourir ? Il est 22h ce mardi 2 juin 1998 lorsque le docteur passe aux aveux. L'ambiance est lourde et la fatigue se lit sur tous les visages. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais la nuit sera longue. Le médecin va leur livrer un monologue 6 heures durant.
On est presque dans la confidence auprès d'un prêtre. J'ai tué, mais il faut que je vous explique pourquoi. C'est-à-dire qu'on est dans « je libère ma conscience ».
Il explique alors avoir rencontré Monique 6 ans plus tôt, à son cabinet médical. Elle vient le voir régulièrement pour des malaises. Petit à petit, une relation particulière s'installe entre eux. Le docteur devient son confident, puis son amant. Selon Monique, derrière le couple uni qu'elle forme avec son époux, se cache une terrible vérité.
Elle lui aurait appris être une femme malheureuse, battue, violentée.
Il explique cette femme non seulement abandonnée, s'il n'y avait eu que ça, mais maltraitée, quasi torturée, violée, livrée comme un objet sexuel aux amis de son mari, qui a déposé plainte, mais la plainte s'est perdue, et qui vit en quelque sorte un calvaire permanent.
Un calvaire confirmé au docteur par une tante de Monique. Cette dernière aurait supplié le médecin d'aider sa nièce.
Il y a cette femme, la tante Julie, qui régulièrement appelle le médecin pour lui dire « Docteur, il faut faire quelque chose, sauvez ma nièce, il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose ».
Le docteur parle aussi des dessins de la petite fille du couple, des dessins inquiétants, au travers desquels on lit clairement une forme de SOS. Le médecin n'en pouvait plus de voir Monique souffrir. Il l'aimait, il se devait de la sauver des griffes de son mari.
Nous sommes dans le paradoxe le plus absolu. Il faut tuer un homme parce qu'il faut sauver une femme. Et à partir de là, il va être conduit à ces gestes extraordinaires d'un médecin qui tue son patient.
Il est médecin, alors l'idée de l'empoisonnement médicamenteux devient évidente. Il va profiter d'un retour de mission de Jean-Paul pour mettre à exécution son plan macabre. Le major se sent un peu fatigué. Alors, il lui propose un traitement revitalisant qui va s'avérer mortel.
On va nous expliquer que dans un premier temps, c'était censé être non douloureux, qu'on avait pensé l'endormir, et puis ensuite lui faire une injection de potassium.
Mais voilà, malgré une dose massive d'anxiolytique, ingurgitée à son insu, le major ne s'endort pas. Impossible donc de lui injecter le potassium mortel. Résultat, c'est un échec.
finalement, il avait vraiment raison, le colonel. Il était en super santé, le major. Et c'est pas facile de le tuer.
Donc il faut passer à la vitesse supérieure. Et justement, le médecin, il est médecin, donc il sait un petit peu ce qu'il faut faire. Et il va trouver quand même le remède mortel.
Et là, c'est l'escalade. À coup d'association médicamenteuse, le docteur empoisonne lentement le major. De plus en plus affaibli, il pense que les prescriptions du docteur vont le remettre d'aplomb. En réalité, le médecin le tue à petit feu en substituant les pilules.
C'est une mort qui est bien programmée, quoi. On ne le tue pas en une journée, on le tue en 20, 30, 40 jours.
Quand on tue par amour, c'est un coup de feu, c'est un coup de couteau. Je peux tout imaginer, mais sur un aussi long terme, une telle organisation criminelle, pour moi, c'est un criminel haut de gamme. C'est le crime parfait, quoi.
Le 11 mars, Jean-Paul finit par sombrer dans le coma et le docteur procède alors à l'injection mortelle. Suite à ses aveux terrifiants, le médecin s'effondre. De son côté, Monique reconnaît dans un premier temps avoir participé à cet empoisonnement. Mais très vite, elle change de version.
Elle va nous expliquer, bon, pour faire simple, que le médecin l'a plus ou moins forcée et que elle voulait sauver son couple. Et elle devient donc, dans cette version qu'elle nous livre là, la seconde victime du médecin.
Finalement, les deux amants sont mis en examen pour assassinat par empoisonnement avec préméditation. Ils sont alors incarcérés à la maison d'arrêt d'Orléans. Mais de nombreuses zones d'ombre persistent. Quel a été le véritable rôle de Monique dans la mort de son mari? Le docteur aurait-il été manipulé? Le 19 juin 2001, 3 ans après le drame, s'ouvre le procès de la veuve et du docteur. Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle. Lui continue à plaider coupable. Elle se dit innocente. La salle est pleine. Tout le monde s'est déplacé pour voir ce que l'on appelle dorénavant les amants maudits.
Il est clair que ce n'est pas un procès comme un autre, dans la mesure où le médecin est quelqu'un de connu, qui est quelqu'un qui est honorablement connu au sein de son village. Donc il y a beaucoup de gens du village qui viennent. Je ne dis pas qu'il y a un comité de soutien, mais il y a des gens qui veulent essayer de comprendre comment ce médecin a cédé aux pulsions de sa maîtresse.
En effet, au cours de la longue instruction, les gendarmes ont découvert que Monique n'a cessé de mentir au docteur. Elle aurait tout fait pour le pousser à commettre l'irréparable.
Là, on s'aperçoit que le geste homicide a reposé sur une série de mensonges. La femme violentée n'a jamais fait l'objet de violence, la femme violée n'a jamais été violée. On a utilisé, manipulé comme une marionnette un homme qui s'est exécuté en exécutant l'autre.
Au bout du fil, Tante Julie, c'est elle. Donc elle change sa voix, elle maquille sa voix, elle raconte des histoires. Enfin, c'est machiavélique comme histoire.
Et ce n'est pas tout. Les dessins inquiétants de la petite fille, c'est elle aussi qui les a faits. Le docteur est sous une telle emprise qu'à l'ouverture du procès, il a du mal à admettre la manipulation.
Elle arrive dans le box, il la regarde et il me dit « Elle est belle ». Un peu comme si quelques années après, avec la détention, avec la conscience de ce qu'elle l'a conduit à faire, il était encore sous le charme, il était encore sous influence.
Les nombreux experts psychiatres appelés à la barre sont formels. Monique a toujours eu conscience de ce qu'elle faisait. Le mensonge, c'est sa façon à elle d'exister.
Elle est séductrice, elle est manipulatrice, elle est mythomane et elle a toujours besoin d'un regard positif des autres.
Pourtant, durant les 3 jours du procès, Monique ne lâche rien. Elle affirme même que dans cette affaire, la victime, c'est elle.
Il est présenté comme l'auteur du crime, mais en fait, c'est pas lui. Personne ne s'y trompe. On sait que la manipulatrice, l'instigatrice, c'est elle.
Après 3 heures de délibéré, la conviction des jurés est faite. La veuve est condamnée à la plus lourde peine, 25 ans de réclusion. Le docteur, lui, écope de 20 ans. 1 an plus tard, ce verdict est revu en appel. La peine du médecin est confirmée. Par contre, la veuve écope de 3 ans de plus. Des peines jugées déséquilibrées pour la famille de Jean-Paul, pour qui le véritable assassin est le docteur.
Pour la famille, ce médecin, il est le principal artisan de la mort de leur fils. Et ça ne peut pas faire l'objet d'une sanction différenciée au seul motif qu'on a à ce point aimé qu'on en a perdu la tête.
Quinze ans après le meurtre machiavélique du major, ses proches continuent d'être hantés par cette affaire. Comment ont-ils pu être tous manipulés de la sorte ?
On est tous tombés dans le panneau. Hein. La femme de notre ami a bien joué la comédie. Elle a floué tout le monde. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est un épouvantable gâchis.
Crime toujours installé à Orléans avec cette affaire qui s'est déroulée le 3 décembre 2004 quand les policiers de la ville ont reçu l'appel d'un homme affolé. Il affirme que sa voisine a vu sa propre femme se faire enlever par des inconnus. Alors que s'est-il passé et surtout qui pouvait en vouloir à cette mère de famille a priori sans histoire? C'est ce que vont tenter de découvrir les enquêteurs et vous allez le voir, c'est un véritable voyage au bout de l'horreur. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment une mère de famille, appréciée de tous, va être exécutée dans des conditions particulièrement dramatiques. Une sombre histoire sur fond de kidnapping, de jalousie et d'argent qui va émouvoir toute une région. Vous découvrirez également que la détermination des forces de police va jouer un rôle capital.
Le corps est découvert en position fœtale, nu. Et là, tout le monde, enfin, puis personne ne dit rien, quoi.
Nous sommes à Orléans, chef-lieu du département du Loiret. Cette agglomération à taille humaine offre un cadre de vie des plus agréables. D'ailleurs, en ce mois de décembre, les rues sont pleines. La frénésie de Noël s'est emparée de la ville.
C'est une très jolie ville, c'est une ville agréable, et puis voilà, avec la Sologne à côté.
C'est une ville bourgeoise, plutôt cossue, calme, où il n'y a pas des gros problèmes de délinquance.
Nous sommes le 3 décembre 2004 à la chapelle Saint-Mémin. Loin de l'agitation du centre-ville, les habitants de cette banlieue chic d'Orléans regagnent peu à peu leur maison après leur journée de travail.
On n'est pas du tout dans une agglomération qui est compliquée sur le plan délinquant. Peut-être des trafics de stupéfiants de temps en temps, des choses comme ça, mais pas plus ni moins qu'ailleurs.
Mais à 17h40, l'ambiance chaleureuse de cette veille de week-end va virer au cauchemar. Les services de police d'Orléans reçoivent l'appel affolé d'un habitant de la chapelle Saint-Mémin déclarant que sa femme, que nous appellerons Marie, est en danger. C'est sa voisine qui a tout vu par la fenêtre.
La voisine se trouve à ce moment-là devant sa fenêtre. Sa fenêtre donne sur l'entrée de ce petit immeuble. C'est 3 étages, c'est un tout petit immeuble où vivent différentes familles.
La voisine dit qu'elle a vu une petite voiture grise, 5 portes, se garer précipitamment à l'endroit où se trouve le parking de Marie et qu'un homme assez grand, assez corpulent serait sorti. et aurait saisi Marie, l'aurait forcé à monter dans sa voiture et la voiture serait redémarrée en trombe.
L'homme indique qu'immédiatement après avoir été prévenu par sa voisine, il s'est précipité au rez-de-chaussée de l'immeuble, dans le garage de son épouse.
Et il ne voit qu'une voiture, une porte ouverte avec un sac qui est resté et il y a tout dans le sac, hein, et rien qui a disparu.
Les policiers prennent au sérieux ce coup de fil et décident de se rendre sur place.
Au départ, on est vraiment dans la stupéfaction, dans l'incrédulité, dans le questionnement. Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi cette mère de famille disparaît comme ça, alors qu'elle rentre du travail et que rien ne présage qu'elle quitte son foyer de manière aussi soudaine?
Alors, que s'est-il passé? Marie est-elle partie avec des gens qu'elle connaissait ou a-t-elle été kidnappée? Les enquêteurs sont loin d'imaginer la traque de plusieurs semaines qui les attend. Près d'Orléans, Marie, 33 ans, vient de se volatiliser. Et les services de police dépêchés sur place procèdent aux premières constatations. Dans le garage de la mère de famille, seule une trace de choc sur la porte montre que quelque chose d'anormal s'est passé. Sans aucun indice, les policiers s'attellent alors à l'enquête de voisinage.
S'il y a une voisine qui a vu quelque chose, on peut espérer que d'autres personnes aient vu effectivement quelque chose. Donc on interroge le voisinage pour essayer de trouver d'autres éléments. Malheureusement, il n'y a rien.
Les policiers réalisent peu à peu que cette enquête va s'avérer particulièrement complexe. D'autant plus que sur le papier, cette jeune maman semble avoir une vie on ne peut plus normal.
Est-ce que c'est une personne qui pouvait avoir une double vie? Est-ce que le couple était mal assorti ou en rupture? Est-ce que, enfin voilà, toutes ces questions se posent au fur et à mesure.
Les enquêteurs effectuent de nombreuses auditions dans l'environnement proche du couple. Interrogés, Marie-Odile, l'une de ses collègues, décrit une femme aimante et chaleureuse.
Elle vient d'avoir son deuxième enfant. Et vraiment, c'est ce petit bout de chou. Elle est complètement tournée vers sa vie de famille.
Elle vit pour, par et avec son mari et ses deux enfants. Je ne peux pas dire mieux. Voilà, c'est ça sa vie.
C'est donc la vie d'une femme chaleureuse qui se dessine. Le couple est installé depuis 3 ans dans cette résidence. Ici, tout le monde apprécie cette famille, discrète et polie.
Qui pourrait vouloir du mal à cette jeune femme? On ne peut pas le concevoir. Personne ne le conçoit.
J'ai des contacts avec la famille, avec d'autres collègues, et je m'aperçois que tout le monde est au même stade d'information, c'est-à-dire qu'on n'a rien, aucune info. C'est le néant, c'est un trou noir.
Cela fait maintenant 3 jours que Marie n'a pas donné signe de vie et l'enquête de personnalité n'a rien donné. La thèse de la disparition volontaire semble donc peu crédible.
Il n'y a aucune rançon qui est demandée, aucun signe d'un éventuel ravisseur. Donc on est vraiment les premiers temps dans l'expectative et dans l'incrédulité.
Malgré tout, les policiers décident de privilégier la piste du kidnapping et ouvrent une information judiciaire pour enlèvement, détention et séquestration.
C'est tellement fou que finalement les services de police ne conçoivent pas une fugue, quelqu'un qui souhaite disparaître et refaire sa vie ailleurs, sans donner signe de vie. C'est absolument pas ça, parce que ça ne correspond pas à l'image de cette personne. Donc très très vite, c'est 3 jours à peine où hop, l'information est ouverte.
La famille est plongée en plein cauchemar. C'est l'incompréhension. Qui pourrait vouloir du mal à Marie, cette jeune mère sans histoire, appréciée de tous? Qui est le mystérieux individu l'ayant forcé à monter dans sa voiture. Est-elle en danger, séquestrée quelque part? À Orléans, cela fait 3 jours maintenant que Marie a été enlevée et les recherches s'intensifient. Une vingtaine d'officiers de la police judiciaire passent la commune au peigne fin. Un parc qui jouxte le domicile est fouillé, ainsi que les rives de la Loire et les abords de la Nationale.
Les recherches ont été telles qu'on a fouillé, je crois, le moindre mètre carré autour d'Orléans.
Malgré ce travail de fourmi, aucun indice n'est retrouvé. Alors, le 14 décembre, 11 jours après l'enlèvement, les enquêteurs, aidés des médias, élargissent leurs investigations dans l'espoir de retrouver la trace de Marie.
L'appel à témoins lancé au niveau national restera vain, permettra pas à la police de s'orienter vers une piste précise.
C'est affreux à dire, mais on a fini par chercher un corps, en se demandant où un corps ou quelque chose. Il n'y a aucune trace, on ne trouve rien, pendant des jours et des jours.
Au bout de 15 jours de recherche acharnée, l'entourage de Marie craint le pire. Secrétaire dans la société de gestion des eaux, ses collègues ne peuvent s'empêcher de penser quotidiennement à son absence inexpliquée.
Tout le monde est sous le choc, tout le monde est sur le pont, incompréhension totale. On se réunit, on discute, on parle, elle est peut-être séquestrée. On peut peut-être faire quelque chose, mais on n'a pas conscience de ce qu'il faut faire.
Pour les proches de Marie, murés dans l'angoisse, l'espoir de la retrouver vivante ne les quitte pas.
Ils sont persuadés qu'elle est vivante. Ils sont persuadés qu'ils vont la retrouver et qu'il y a juste, en fait, quelqu'un qui va leur rendre.
Les policiers sont dans l'impasse. Ils décident alors de relire attentivement, une à une, toutes les auditions réalisées depuis le début de l'enquête.
200 personnes, voire davantage, qui ont été entendues, qui ont été auditionnées longuement. Donc ils reprennent ça, ils se disent il y a forcément parmi ces 200 personnes, il y a forcément un indice.
Et parmi les centaines de PV d'audition, un détail dans les déclarations de l'époux de Marie va interpeller les enquêteurs.
Il raconte qu'un jour, sur le lieu de travail de son épouse, il y a eu une altercation totalement anodine pour une broutille. Mais il n'en fait pas, parce qu'on ne sait jamais.
En fait, Marie a eu un différend avec un homme. Un homme qui l'a remplacé pendant son congé maternité l'année précédente. Il s'appelle André Péjoub. Il a été entendu, lui aussi, dès le début de l'enquête. Il avait fait part d'un événement surprenant alors qu'il remplaçait Marie à la société de gestion des eaux.
Il dit à la police que pendant son absence, il recevait parfois 2 coups de téléphone par jour d'un certain Patrick qui avait un accent de l'Est et qui manifestement avait une relation extra-conjugale avec Marie. Et ce témoignage est en porte-à-faux total avec les autres témoignages qu'a pu avoir la police sur l'environnement familial, sur la respectabilité de cette femme qui a une vie tout à fait rangée.
Les enquêteurs s'interrogent. Ce collègue de Marie aurait-il cherché à les mettre sur une fausse piste? Apparemment, André est coutumier du fait, comme en témoigne son ex-compagne, séparée de lui au moment des faits.
Il était très manipulateur, mais voilà, c'était tout dans la parole en fait. Je pense beaucoup de mensonges et très peu de vérité.
André a 36 ans. Né au Maroc, il s'est fait naturaliser français. Ce père d'une jeune fillette, dont il a la garde alternée, est déjà connu des services de police.
Il a un casier judiciaire, certes pour escroquerie, de falsification de chèques, et il a surtout une aisance financière qui ne correspond pas au poste qu'il a.
Les policiers ont la conviction que cet étrange collègue cache quelque chose. Mais sans preuve, ils ne peuvent se fier qu'à leur flair. Alors, André Est-il impliqué dans l'enlèvement de Marie? Les enquêteurs sont-ils enfin sur une bonne piste? Le 22 décembre 2004, 19 jours après l'enlèvement de Marie, les enquêteurs suivent leur intuition. Ils se rendent à Saint-Jean-de-Bray, dans la banlieue orléanaise, afin de perquisitionner le domicile d'André. La première fouille ne donne rien, jusqu'à ce qu'un enquêteur découvre, dans une bonbonnière, les bijoux d'une femme.
Le policier trouve une alliance sur laquelle sont gravés des mots, un amour pour la vie, une date de mariage.
Cette alliance, immédiatement présentée au mari de Marie, va confirmer que c'est celle de sa femme.
À partir de ce moment-là, la perquisition prend une autre tournure, bien évidemment, puisque on découvre, c'est la première fois que l'on découvre une trace de Marie quelque part.
Le moindre mètre carré est fouillé. Et rapidement, les policiers trouvent un pistolet automatique et des menottes. Et ce n'est pas tout. Des outils de jardinage avec des traces de terre récentes sont découverts. Les enquêteurs se rendent alors à l'extérieur de la maison où un élément va retenir leur attention.
Tout le jardin est parfaitement gazonné, mis à part un petit carré de terre meuble et nu au fond du jardin.
Les services de police interrogent Monsieur Béjou sur la terre qui remuait au fond, et il a cette parole assez étonnante. Il leur dit « Vous ne trouverez rien là-dedans ». On sait bien que les services de police se précipitent et on commence à remuer cette terre.
Les policiers, secondés par les employés municipaux, creusent. 50 cm, 1 mètre de profondeur, rien, toujours rien. L'équipe est sur le point d'arrêter.
Et il y a un des agents municipaux qui indique qu'il n'est pas normal de trouver des feuilles à plus d'un mètre sous terre. Donc ça prouve que la terre a été remuée depuis profondément. Et par cette réflexion, on persiste et on creuse.
Et à 1,50 m de profondeur, le corps d'une femme est retrouvé.
Nous sommes le 22 décembre, 3 jours avant Noël, et sous les yeux des enquêteurs, se joue l'horreur.
Le corps est découvert en position fœtale, c'est-à-dire recroquevillé, nu, le crâne entièrement rasé, les parties génitales entièrement rasées. Et là, tout le monde, enfin, puis personne ne dit rien, quoi, parce que c'est tellement saisissant comme scène que c'est effrayant.
Le visage de cette femme, que l'on devine, ne laisse aucun doute. Il s'agit bien de Marie. Pour ses collègues, qui apprennent la nouvelle, c'est le choc.
Je me dis, on l'a enfin retrouvé. Parce que, en fait, plus le temps passait, plus l'inquiétude n'était plus... Elle a disparu et on ne saura jamais. Donc c'était à la fois un soulagement, hélas, et bien sûr, un gros chagrin.
La découverte de cette scène de crime macabre pose un grand nombre de questions. Qu'est-il véritablement arrivé à Marie? Quelles sont les circonstances exactes de sa mort? Et pourquoi André s'en est-il pris à elle? Quelques jours après la découverte du corps de Marie, les résultats de l'autopsie tombent. Elle a été tuée 24 à 48 heures après son rapt. Et l'enfouissement a dû intervenir une dizaine d'heures après la mort. Fait marquant, la mère de famille est décédée par une technique d'asphyxie très particulière.
L'autopsie révèle qu'elle est morte par étouffement et que cet étouffement serait consécutif à un point de compression au niveau de la gorge. Ça nécessite une maîtrise d'une gestuelle qui n'est pas donnée à tout le monde.
Placé en garde à vue et interrogé sur ce crime atroce, André reconnaît être au courant, mais affirme ne pas être à l'origine de ce meurtre.
Il a comme explication que c'est une collègue de travail qui serait venue vers lui pour lui demander s'il ne connaîtrait pas des gens qui pourraient procéder à l'enlèvement de Marie pour lui faire peur. Après, il faudrait la relâcher. Voilà.
Et ce qu'explique ensuite André semble totalement surréaliste. Il aurait recruté deux amis pour procéder au rapt. Les deux hommes auraient utilisé son véhicule pour kidnapper Marie. Mais en voulant empêcher la jeune femme de crier, il l'aurait accidentellement étouffée.
Il se retrouve avec un corps chez lui, il ne sait pas quoi faire, donc il va creuser quelque chose de pas du tout crédible.
Et les policiers en sont persuadés, André ment.
Et on va très vite s'apercevoir qu'il est en contact régulier via les relevés téléphoniques avec un certain Irinel.
Un nouvel homme vient donc de faire son apparition dans l'enquête des policiers. Il s'appelle Irinel et serait donc le complice d'André. Interpellé et placé en garde à vue, il livre pourtant une toute autre version que celle donnée par André. Il admet que ce dernier l'a bien contacté pour l'aider à enlever la jeune femme. Mais il affirme ne rien savoir du meurtre.
Il se rend donc chez André Bouger aux alentours de 16h, il met une cagoule et ils prennent la direction du domicile de Marie. Lui dit ensuite qu'il est resté simplement au volant de cette voiture, que quand il a ramené Marie après au domicile d'André Bouger, elle était encore en vie.
J'avoue qu'à la lecture du dossier, on est assez perturbé parce qu'on a deux versions totalement différentes. Ça va nécessiter à tout le moins une confrontation, ça c'est sûr.
Mais coup de théâtre. Le 7 janvier 2005, quelques jours seulement avant cette confrontation, les enquêteurs font face à un événement inattendu.
Je reçois un appel du juge d'instruction pour me prévenir que M. Aéjou a fait une tentative de suicide, qu'il est entre la vie et la mort à l'hôpital.
André, le principal suspect, meurt dans la journée. Il part donc avec sa vérité. Pour les enquêteurs, l'espoir d'obtenir un mobile s'écroule. Ils le savent, connaître les véritables circonstances du décès de Marie va s'avérer particulièrement difficile. Alors, la famille aura-t-elle enfin les réponses aux questions qui la hantent ? Malgré le décès du principal accusé, l'enquête se poursuit. Car il reste une question cruciale, celle du mobile. Pourquoi André s'en est-il pris à Marie ? Les policiers mettent alors la main sur une ancienne plainte particulièrement accablante.
En 2001 ou 2002, il y a une enquête pour mauvais traitement et viol. En fait, il fait venir une de ses nièces du Maroc. Je crois me souvenir qu'elle devait avoir 14 ou 15 ans, qu'elle était plus ou moins scolarisée d'ailleurs, et que la jeune fille va déposer plainte donc, contre son oncle pour mauvais traitement et viol, et la plainte est classée sans suite.
Pourtant, la thèse du crime sexuel ne convainc pas entièrement les policiers. Ils décident donc de s'intéresser à une affaire qui avait suscité leur curiosité au début de l'enquête, mais qui n'avait rien donné. Celle de la tentative d'enlèvement quelques mois plus tôt de Marie-Odile, une collègue de Marie.
Je suis rentrée donc vers 20h30 à mon domicile et là un individu m'a sauté dessus. Cet individu était cagoulé et ganté et j'ai hurlé énormément pour avertir les voisins. Et personne n'est sorti. Et d'un seul coup, j'ai pas compris, il m'a lâché.
À l'époque, l'ADN retrouvé sur l'écharpe de Marie-Odile, n'avait pas parlé. Mais aujourd'hui, recoupé avec celui d'André, il match. Les enquêteurs pensent alors à un crime crapuleux. Car comme Marie, dans le cadre de ses fonctions, Marie-Odile a accès à des sommes d'argent importantes.
Se pose la question de son désir, de sa volonté peut-être de nuire à d'anciens collègues, voire de les supprimer pour pouvoir accéder à leur poste.
On pourrait supposer qu'il voulait un des deux postes pour faire des trafics d'argent. C'est vraiment ce que je ressens et mon interprétation.
Pourtant, après des mois d'instruction, les thèses du crime sexuel ainsi que le meurtre crapuleux ont été abandonnés. Seule certitude, André est bien le principal instigateur de ce crime odieux. Le 24 mars 2007, c'est donc dans l'incompréhension totale que s'ouvre le procès d'Irinel à la cour d'assises du Loiret. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement, détention et séquestration, suivi de mort.
C'est un procès un peu atypique, c'est-à-dire que la personne qui a tué n'est pas là. Et on a une autre personne qui sait peut-être des choses, mais en tout cas n'a rien dit jusqu'à présent. Et on ne sait même pas si ce procès va révéler quelque chose.
Tous les regards se portent sur Irinel, que l'on appelle dorénavant le chauffeur. Mais il persiste à minimiser son rôle et affirme ne rien savoir du décès de Marie. Il est finalement condamné à 20 ans de réclusion. Une peine réduite à 19 ans en appel.
C'est évident qu'il a payé pour un autre, mais en même temps, est-ce que ça pouvait être autrement ?
Aujourd'hui, presque 10 ans après les faits, la famille de Marie essaie de se reconstruire, loin d'Orléans.
Il y avait 2 enfants. Il faut qu'ils sachent qu'on parle de leur maman de façon merveilleuse, que c'était une belle personne et que ça a été dit. Donc tant mieux pour eux. Et j'espère que, voilà, on fait du mal. Eh ben on est puni, voilà. Et ça, eh ben on peut se construire après. C'est important.
Crime toujours installé à Orléans avec cette affaire qui s'est déroulée le 23 juillet 1995. Michel, 22 ans, assiste au mariage de son ami d'enfance. Soudain, il va disparaître mystérieusement. Seulement, 2 jours plus tard, toujours pas de nouvelles de Michel. C'est finalement son corps qui sera découvert dans un canal à 1 km de là. Pour les enquêteurs, il s'agit d'un suicide ou d'un accident, mais son père n'y croit pas. Il va mener l'enquête lui-même. Il est convaincu que son fils a été assassiné. Voici ce document. Pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'un père prêt à tout pour percer le mystère de la mort de son fils. Vous verrez comment Roger, 76 ans, va se transformer en véritable enquêteur avec un seul but, connaître la vérité.
Il a été roué de coups avant de mourir, moi c'est ce que je pense. Oui, c'est. Parce qu'il en avait partout.
Nous sommes à Nargy, charmante commune de 1500 habitants, situé au nord-est du Loiret, à la frontière de l'Yonne. Traversé par le canal de Loing, ce village rural vit au rythme des saisons.
C'est un petit village du Loiret, c'est une cité résidentielle. Le village de Nargy prend quelques couleurs, il y a des vacanciers, il y a des pêcheurs, on se presse au bord du canal, c'est sympathique.
Dans la salle des fêtes du village, ce samedi 22 juillet 1995, l'humeur est également à la détente.
Il y a un mariage qui se déroule dans la salle communale, tout le monde est là, fait la fête, les copains sont réunis.
On danse, on rit, tous les ingrédients sont réunis pour rendre ces noces inoubliables. 60 invités ont répondu présent, parmi eux, Michel, 22 ans.
Michel, c'est un ami d'enfance du marié, il est invité, il participe vraiment activement au mariage, il connaît tout le monde.
Michel et quelques invités proches poursuivent les festivités jusqu'au lendemain. Mais en fin d'après-midi, les mariés remarquent avec étonnement que le jeune homme n'est plus là.
On ne sait pas trop où il est. Peut-être qu'il est dans un coin en train de récupérer, parce que peut-être qu'il a bu. Un peu plus peut-être que d'habitude, mais on ne sait pas où il est.
Soucieux, les mariés décident de partir à sa recherche.
D'abord, dans le proche périmètre de la salle des fêtes, sur le parking, où en principe il y a sa voiture, on pouvait supposer qu'il dort dans la voiture pour récupérer, mais il n'y a personne dans la voiture.
Les mariés se rendent alors jusqu'au bord du canal, situé à 1 km de la salle des fêtes. En vain.
Les recherches poursuivent un petit peu la nuit, et le marié décide finalement d'avertir Roger, le père de Michel, pour lui dire bah, « écoute, ton gars, je sais pas où il est. »
Michel habite chez ses parents, à Vaudeur, dans l'Yonne. Un village à 100 km de Nargy. Alors peut-être est-il rentré chez lui. Mais Roger, son père, ne l'a pas vu. Pourtant, il ne s'inquiète pas.
Il a la noce, il va pas revenir à pied. Hein. J'ai dit sa voiture. Elle dit sa voiture, elle est là. Bon, ben, si la voiture elle est là, il va revenir.
Bah, Roger ne s'aime pas outre mesure parce que Michel est quelqu'un de fêtard, quelqu'un qui a un bon vivant, qui aime bien la fête, les filles, donc il pense qu'il est peut-être parti avec une personne de rencontre.
Et si Roger ne s'alarme pas, sur les lieux de la noce, l'angoisse monte.
On commence un petit peu à s'inquiéter, parce que c'est pas dans sa nature de partir et de pas laisser de nouvelles, de pas dire où il va.
Alors, où est passé Michel ? Le jeune homme a-t-il volontairement disparu ? Ou est-il en danger ? Nous sommes le mardi 25 juillet 1995. Cela fait 2 jours que Michel n'a pas donné signe de vie. Roger, son père, est à présent très inquiet. Il décide alors d'aller à Nargy, à la recherche de son fils, mais sans succès. Il se rend donc à la gendarmerie pour signaler sa disparition.
Les gendarmes prennent la déposition, mais sans y accorder une grande importance. On pense qu'il est grand, il a pu voler de ses propres ailes, et donc on n'est pas du tout à la gendarmerie sur l'idée d'une enquête, d'une recherche particulière.
Pourtant, ce même mardi vers 16h, les gendarmes reçoivent un coup de fil qui va donner une toute autre tournure à l'affaire. Un garde champêtre de Nargy explique avoir vu une forme flotter dans le canal.
Ils vont aller voir, en s'approchant, ils vont découvrir que c'est le corps d'un homme.
Jusque-là, ce sont des choses qui malheureusement arrivent de temps en temps. Mais là, il y a quelque chose qui est, naturellement va troubler tout le monde, c'est que ce corps est sans tête.
Au même moment, en poursuivant ses recherches, Roger remarque des voitures de gendarmerie au bord du canal. Il se précipite et aperçoit la housse au bord de la rive.
Les gendarmes lui disent qu'on vient de découvrir quelque chose. Et naturellement, il se précipite. On ne veut pas trop qu'il voit. C'est une force de la nature, Roger. Et il s'impose. Et l'horreur, là, absolue, puisqu'il reconnaît les mains de son fils. Il reconnaît le torse, les mains de son fils. Et donc, il va tout de suite découvrir et comprendre que le pire est arrivé.
J'étais effondré. Ouais, c'est dur.
Pour tenter d'éclaircir les circonstances de cette mort, les gendarmes ouvrent une enquête préliminaire et décident d'entendre le jeune marié. Celui-ci explique que Michel, sous l'effet de l'alcool, aurait tenté de rentrer chez lui avec sa voiture et qu'il l'en aurait empêché en lui prenant les clés. Il suppose donc que Michel serait parti à pied vers 17h.
Il n'y aurait eu aucun incident et naturellement, il ne s'explique pas autrement que par l'idée d'un accident ce qui a pu arriver à Michel.
Michel serait tombé accidentellement dans le canal. Mais alors, comment expliquer la décapitation? Et où se trouve la tête de Michel?
Le mercredi, on retrouve la tête. Elle est finalement pas très loin, hein. Elle est à un kilomètre de l'endroit où on a repêché le corps, là aussi tout près d'une écluse. Et c'est bien la tête de Michel.
La dépouille de Michel est examinée par un médecin généraliste au funérarium et non pas par un médecin légiste. Les gendarmes sont en effet convaincus qu'il s'agit d'un accident.
Le généraliste en arrive à la conclusion suivante que Michel est d'abord mort noyé et que la décapitation, elle provient du passage d'une péniche. Hein, il y a des péniches sur le canal et la tête aurait été à ce moment-là happée et décapitée par l'hélice de la péniche.
Quant aux nombreux hématomes et blessures retrouvés sur Michel, ils auraient aussi été provoqués par le passage du bateau sur son corps.
Donc au vu de ces éléments et de l'audition du marié, trois mois après, le dossier est classé sans suite.
Pour les enquêteurs, les causes du décès ne seraient donc pas criminelles. Michel serait mort à la suite d'un accident ou d'un suicide par noyade. Un drame pour Roger, qui a du mal à croire que son fils soit mort de cette manière. Alors, ce jeune homme aurait-il vraiment voulu se suicider le jour des noces de l'un de ses meilleurs amis? Et si son père avait finalement raison de douter? Cela fait maintenant trois mois que le corps de Michel a été retrouvé. Et la justice vient de conclure à un accident ou un suicide. Mais Roger n'y croit pas.
Roger, qui connaît bien son fils, bien Michel, il ne peut pas lui accepter la thèse du suicide. Ça, pour lui, ça passe pas. Ça passe pas du tout.
Au moment des faits, Michel est un jeune forestier qui croque la vie à pleines dents. Roger le sait d'autant plus que son fils vit encore dans la ferme familiale. C'est ici qu'il est né, ici qu'il s'épanouit au sein d'un foyer chaleureux.
Il adore la vie, Michel. Michel, il adore la vie. Il avait ce qu'il voulait. Les filles, il avait ce qu'il voulait en filles. Il avait... Non, il était pas comme ça.
Michel, il est à l'aise dans ses baskets et sur toute la ligne. Il a un joli succès auprès des filles. Puis, il a vraiment l'âge pour lui, 22 ans. Donc, franchement, c'est l'insouciance. On démarre dans la vie à 22 ans.
Une vie simple et sans histoire. D'ailleurs, le jour des noces, Michel était d'humeur joyeuse. Alors pour ses proches, la thèse du suicide ne tient pas. Mais pour Roger, le vrai déclic va avoir lieu quelques semaines plus tard, après avoir rencontré un éclusier qui va lui faire une remarque surprenante.
L'éclusier, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, Roger... Moi, je peux te dire que lorsqu'un corps tombe comme ça dans le canal, les culs de péniche passent et qu'il y a l'hélice qui passe par-dessus, c'est haché menu.
À partir de là, Roger va se transformer en véritable enquêteur. Il va rencontrer des mariniers, des éclusiers, qui à coup d'illustrations et témoignages vont lui permettre d'établir un véritable dossier, remettant en cause la thèse de la décapitation par une hélice.
Il leur fait remplir des attestations, il va nous amener ces attestations. Pour lui, si 30, 40, 50 éclusiers ou bateliers lui disent que c'est pas possible, c'est que ça n'est pas possible.
Une hélice, ça tourne à 900 tours minute maximum, et ça a trois pales. Et donc, quand il y a une pale qui coupe, l'autre pale est juste derrière, pour couper plus loin, et puis il aurait été tout cisaillé. Que là, pour dire juste une pale qui coupe la tête, c'était impossible.
Son avocate, maître Corinne Herman, spécialiste des affaires criminelles non résolues, va elle aussi se renseigner de son côté.
Je vais aller voir des pompiers qui interviennent dans les zones fluviales, et savoir comment ils retrouvent les corps dans ces cas-là. Effectivement, on a aussi des sources, des documents médico-légaux qui nous montrent quand même que les corps sont l'objet de plusieurs coupures dans ces cas-là. Et là, on ne voit pas ça sur le corps de Michel Dufoy.
Et un autre élément pose problème. Des hématomes ont été découverts sur le corps de Michel. Selon le médecin généraliste, ils auraient été provoqués par le passage d'une péniche sur son corps. Pour Roger et son avocate, ça ne colle pas.
Moi, je ne suis pas médecin, mais par habitude, sur les dossiers sur lesquels j'ai travaillé et toutes les autopsies sur lesquelles j'ai travaillé, les experts nous expliquent qu'un hématome ne peut se constituer que du vivant d'une personne, c'est-à-dire tant que le sang circule, c'est-à-dire tant que le cœur bat. On ne peut donc pas avoir d'hématome de cette importance-là, un hématome qui faisait plusieurs centimètres sur la cuisse, un hématome très important à la tête, si ces hématomes ont eu lieu après la mort de Michel Dufoy.
Roger, lui, a son explication sur la présence des hématomes.
Il a été roué de coups avant de mourir, moi c'est ce que je pense. Oui, c'est. Parce qu'il en avait partout.
Roger en est persuadé. Son fils ne s'est pas noyé accidentellement, et encore moins volontairement. Alors, il s'interroge. Aurait-on assassiné Michel ?
Ça devient une obsession, les circonstances de la mort de son fils. Et cette enquête-là, il vient la porter à la gendarmerie en disant « mais il y a quelque chose qui ne va pas ». Il dépose plainte pour homicide volontaire et il espère qu'on va enfin savoir la vérité.
8 mois après le décès de Michel, grâce à la persévérance de son père, le parquet de Montargis réouvre l'enquête pour homicide volontaire. Roger est plein d'espoir. Va-t-il enfin avoir des réponses aux nombreuses questions qui entourent la mort de son fils ? Suite à la réouverture de l'enquête, les gendarmes cherchent en priorité à retracer l'emploi du temps de Michel le jour de sa disparition. Plusieurs invités sont entendus. Parmi eux, le marié, qui est de nouveau auditionné. Il explique aux enquêteurs que le repas a commencé vers 14h. Un déjeuner bien arrosé pour Michel, qui, une fois les festivités terminées, aurait voulu rentrer chez lui en voiture, mais il l'en aurait empêché.
En un premier temps, il a voulu ouvrir la portière de la voiture, mais elle était fermée de l'intérieur. Michel avait fermé sa porte. Alors, comme on est en juillet et le toit ouvrant était ouvert, le marié explique aux gendarmes que finalement, il a réussi à prendre les clés en passant sa main. Il a retiré les clés du contact. Il a réussi à ouvrir la porte, à sortir Michel et puis à la faire asseoir sur une chaise. Et c'est seulement après que Michel est parti. Et puis, on ne l'a plus jamais retrouvé.
Une version qui satisfait les gendarmes. Et pourtant, le parquet décide de procéder à l'exhumation du corps afin de le faire autopsier par un médecin légiste, comme cela aurait dû être le cas la première fois. Roger attend beaucoup de cette autopsie. Il va enfin savoir si son fils est vraiment mort noyé. Mais les résultats de l'autopsie vont s'avérer surprenants.
En gros, ce que nous dit le médecin légiste lorsqu'il pratique l'autopsie, c'est en gros, je ne peux plus rien constater parce que j'interviens 10 mois après les faits. Alors des autopsies 10 mois, 10 ans, 5 ans après les faits, on en pratique tous les jours en France et on peut encore voir des choses.
Le médecin légiste conclut donc qu'il ne peut pas préciser avec certitude les causes de la mort. Mais il se range tout de même sur la version de son confrère généraliste. Michel serait mort noyé et ses blessures auraient été provoquées par le passage d'un bateau. Pour les hématomes, il apporte une nouvelle explication.
Il dit que les hématomes, ou en tous les cas, les ecchymoses qui ont été constatées par le premier médecin étaient peut-être des traces de putréfaction. Alors oui, peut-être, si ce n'est qu'on ne sait pas depuis combien de temps Michel est resté dans l'eau, qu'on ne sait pas à quel moment il est mort, et que si on ne sait pas si c'est des hématomes, alors c'est peut-être des traces de putréfaction, mais on n'en sait rien, mais on affirme ça.
En novembre 1998, le parquet décide une nouvelle fois de classer l'affaire sans suite. Mais Roger ne baisse pas les bras pour autant. Il pense alors à la voiture de son fils que personne jusqu'ici n'a cherché à examiner.
Le véhicule de son fils est resté sur place, là où se tenait la fête. On va lui dire qu'il peut le reprendre. Et bon, d'une part, il y manque la radio. Le véhicule a été nettoyé. Mais surtout, on y retrouve les vêtements que portait son fils pendant la fête, notamment la chemise qu'il portait au moment de la fête. Et il faut rappeler que le corps de Michel a été retrouvé torse nu.
Et il trouve la chemise dans le véhicule, lavée, avec un accroc. On aurait dû trouver la chemise dans l'eau, ou on aurait dû trouver la chemise dans la salle, ou au moins on aurait dû la trouver sale, pas sentant le propre, pratiquement repassé, plié. Il y a quelque chose qui ne colle pas.
Roger est maintenant persuadé que quelque chose d'anormal s'est passé dans cette voiture. Il se rappelle alors le témoignage du marié qui avait affirmé avoir pris les clés de Michel par le toit ouvrant.
Il va dire, tiens, moi je vais faire moi-même finalement, je vais essayer de récupérer les clés. Il n'y arrive pas, il est très loin d'y arriver.
Et pour cause, il manque plus de 50 cm entre la main et le contact pour pouvoir attraper les clés. Pour Roger, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Le marié ment.
Ici, il ment, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher. Parce que quand on n'a rien à se reprocher, pourquoi faire mentir? Alors, du moment qu'il ment, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Donc, il est au courant de quelque chose.
Roger dépose de nouveau plainte, mais cette fois-ci pour faux témoignage. Le parquet réouvre donc l'enquête une deuxième fois et décide d'entendre de nouveau le marié. Ce dernier réaffirme ses déclarations. Il a bel et bien pris les clés par le toit ouvrant.
Nous, on avait demandé une reconstitution, au moins qu'on démontre qu'on pouvait le faire. On convoque juste cet homme, on lui demande de repréciser son témoignage, ces deux lignes. Si je dis que je l'ai fait, je l'ai fait, c'est en gros ça, et ça suffit au juge.
Début 2000, la justice prononce donc un non-lieu pour la deuxième fois. Roger est abattu, mais il n'en démord pas. Pour lui, son fils a été assassiné. Alors, Roger a-t-il raison de poursuivre son combat? Son fils a-t-il été, comme il l'affirme, assassiné? Cela fait maintenant 6 ans que Roger mène l'enquête sur le décès de son fils. Mais toutes les pistes étudiées jusqu'ici ont été refermées par la justice. Roger est à court d'idées. Pourtant, à l'été 2000, une rencontre va lui redonner espoir.
On lui présente Jean-François Abgral qui est un ex de la gendarmerie, qui devient enquêteur privé. Et on lui propose de faire examiner le véhicule par cet enquêteur qui est un habitué, qui est de la crime gendarmerie.
Jean-François Abgral. Il est devenu célèbre grâce à l'arrestation du tueur en série Francis Holm. Et il confirme la thèse de Roger. Il est impossible que le marié ait réussi à récupérer les clés de Michel en passant le bras par le toit ouvrant. Mais ce n'est pas tout. Il découvre également un nouvel élément qui va faire rebondir l'enquête.
Et constate qu'il y a des taches brunâtres sur le siège avant, sur le siège arrière. Pour lui, ça peut être des taches de sang.
Des taches de sang que quelqu'un aurait pris la peine de nettoyer. Jean-François Abgral préconise alors de les faire analyser. Et à l'été 2001, Roger, aidé de son avocate, demande donc à deux techniciens d'expertiser la voiture de son fils. Les techniciens repèrent alors les mêmes taches brunâtres que le détective privé. Ils appliquent alors un réactif révélateur de traces de sang et le verdict est sans appel.
On va dire oui, ce sont des traces de sang. Après, est-ce que c'est du sang humain, animal, on ne le sait pas. Mais en tous les cas, oui, les révélateurs vont être positifs. Donc, pourquoi il y a du sang de son véhicule? C'est une question de plus à poser à la justice.
S'agit-il du sang de Michel? Cette voiture serait-elle une scène de crime? Autant de questions qui interrogent Roger et son avocate. Il demande donc, pour la troisième fois, à la justice de réouvrir l'enquête.
Et la justice a dit non. La réponse est cinglante.
Le véhicule n'a aucun lien avec la mort de son fils. Il est mort dans l'eau, il n'est pas mort dans le véhicule. Donc voilà, on vous rend votre véhicule. Faites-en ce que vous voulez. Nous, on n'ira pas voir plus loin.
Et c'est presque la clé, là. On avait presque la clé. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, est-ce qu'aujourd'hui, avec les progrès de la science, peut-être que ce serait intéressant de savoir, juste savoir si c'est du sang humain ou du sang animal.
Nous sommes en 2001. Et plus le temps passe, plus le mystère s'épaissit autour de la mort de Michel. Des questions sans réponse qui hantent le quotidien de Roger. Pourtant, ce père de famille n'est pas au bout de ses surprises. Les années s'écoulent, mais Roger ne peut se résoudre à abandonner son combat. Pourtant, depuis 4 ans, aucun nouvel élément ne lui a permis de relancer l'enquête. Mais un jour de mars 2005, 10 ans après la mort de Michel, un coup de théâtre donne un tournant inattendu à l'affaire.
Roger se rend très régulièrement sur la tombe de son fils, une fois par semaine. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'il s'approche de la tombe, il aperçoit une pancarte qui est posée devant le monument et sur laquelle figurent en grosses lettres noires les lettres ADN.
Roger croit d'abord à une mauvaise blague. Puis il se dit que la justice a peut-être, sans le prévenir, réouvert le dossier.
Roger se dit, c'est peut-être un espoir. ADN, oui, il veut faire des analyses ADN. Peut-être qu'enfin la justice a accédé à sa demande. Mais très vite, il déchante parce qu'il se rend compte que sur d'autres sépultures ont été apposés les mêmes panneaux, à savoir sur les tombes de Géraldine Giraud et de Katia L'Herbier qui ont visiblement auraient été assassinés par Jean-Pierre Treiber.
Roger, ainsi que certains journalistes qui suivent l'affaire, s'interrogent. Quelle connexion pourrait-il y avoir entre la mort de Michel Dufoy en 1995 et les meurtres de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier, retrouvées brûlées en 2004?
On se dit, il y a peut-être un lien. L'assassin présumé des deux jeunes femmes, Jean-Pierre Treiber, était un forestier, comme la plupart des personnages qui gravitaient autour de ce mariage. Et Treiber avait des liens avec Lyon.
Pour en avoir le cœur net, Roger dépose plainte auprès de la gendarmerie et le panneau est saisi. Ses avocats, eux, envoient une demande au procureur de Sens et d'Orléans afin qu'ils vérifient l'origine de ces panneaux. Mais aucune réponse ne leur est apportée.
Est-ce qu'on a voulu nous guider et donner une piste aux enquêteurs et à Roger en mettant ces panneaux sur ces deux tombes? On ne sait toujours pas, c'est un des points d'interrogation de plus de ce dossier.
20 ans après les faits, la mort de Michel comporte toujours de nombreuses zones d'ombre. Mais pour les avocats de Roger, il y a également des certitudes.
Toutes les preuves réunies au dossier démontrent que Michel n'a pas disparu comme cela, n'est pas parti le dimanche à 5 heures et que on ne l'a pas empêché de prendre son véhicule en passant par le toit de la voiture. Ça, c'est certain, c'est établi.
Aujourd'hui, Roger continue de se battre. Malgré son acharnement et les portes qu'il a ouvertes, mais qui se sont systématiquement refermées, le père de Michel ne baissera jamais les bras. Il veut la vérité en mémoire de son fils.
Je voudrais, avant de partir, je voudrais connaître la vérité. Je voudrais connaître la vérité avant de partir. C'est tout.